Passionnément Vôtre. Passionnément Vôtre, l'émission 100% passion avec Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passionnément Vôtre. Comme chaque semaine maintenant, vous connaissez le rendez-vous. Et cette fois, nous accueillons alors une passionnée d'animaux, mais surtout de chiens, à la personne de Lucie Rolls. Alors, Lucie, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci à toi d'être venue dans nos studios. Donc, on va commencer d'entrée parce que tu as vraiment une passion vraiment prenante, enfin énorme envers tes chiens, on va dire. Déjà, donc, ton enfance, est-ce que tu as été entouré de chiens, de chats? Comment ça s'est passé ton enfance?
C'est ça. Donc, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai la passion des animaux de manière générale qui m'a été transmise surtout par mon grand-père. Donc, j'ai des souvenirs de moi petite en train de donner des biberons à des lapins, des chatons, à nourrir des chauves-souris à la pince à épiler. Donc, j'ai vraiment eu plein d'animaux différents dans ma vie de jeune fille. Et en fait, aux alentours de mes 10 ans, j'ai eu mon premier chien à la maison. Donc, c'était un petit chien qui venait de la SPA de Rodez et qui avait beaucoup de troubles du comportement, de beaucoup de stress. Et du coup, ça m'a un peu mis les pieds dans le comportement canin. Et après, derrière, j'ai eu mon premier chat, j'ai eu d'autres chiens. Donc,
Et donc, le tout premier chien que tu as eu, il s'appelait comment?
Il s'appelait Titou.
Donc, Titou, il avait des troubles comportementaux, mais tu le savais quand vous l'avez adopté?
Alors, c'était pas nous qui l'avions adopté directement. Mmh. On nous l'a donné derrière parce qu'il ne correspondait plus à la famille qu'il avait. Et en fait, les troubles de comportement, c'était parce que c'est un chien qui avait été traumatisé chiot. Et nous, on l'a eu à l'âge adulte avec beaucoup de stress et beaucoup de peur d'abandon. Donc, très rapidement, en fait, ça m'a permis d'acquérir des connaissances sur la lecture des comportements canins.
Alors, je ne sais pas s'il pourrait faire quelque chose, mais j'ai mon assistant qui a des troubles du comportement. Non? Non, plus rien. Désolé. Désolé,
Armand, j'essaie
de te garder. Tant pis.
Désolé. Donc, voilà, donc on est d'accord, c'est vraiment la passion qui t'est ancrée au fond de toi. Et du coup, t'as décidé d'en faire ta passion dans H24, on va dire.
Oui, c'est ça. Donc, du coup, petit à petit, au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvée, du coup, autour de mes 20 ans, j'ai pris mon premier chien à moi perso. Donc, j'ai pris une chienne de race dog de Majorque, donc qui est une race pas très connue en France.
C'est grand, ça, non? Enfin, dog, non?
Non, alors, c'est costaud, mais c'est pas très grand.
D'accord.
Pour les connaisseurs, c'est un peu plus grand qu'un Amstaff, mais c'est plus petit que tous les dogs plus classiques, dog argentins. Donc, elle fait entre 30 et 40 kilos. Et du coup, avec cette chienne, j'ai commencé à mettre les pieds dans tout ce qui était monde de l'éducation canine et surtout du sport canin. Donc, j'ai vraiment commencé à me passionner pour pas mal de disciplines sportives.
Et voilà, justement, donc en fait, c'est pas, on va dire, je sais pas si on appelle ça des chiens de loisirs. Donc, c'est vraiment des chiens, tu leur veux leur faire du sport.
C'est ça.
C'est pas un chien d'appartement, je sais pas si on peut dire comme ça, c'est vraiment.
Alors, moi, je suis rentrée dans le sport justement pour mettre en avant en fait tout ce qui est complicité avant tout ce qui est compétition, parce que moi, ça m'intéresse pas vraiment. Donc, moi, c'est des chiens de famille, mais avec lesquels je fais un sport. Je ne fais plus de sport moi perso. Je fais un sport avec mes chiens, puisque maintenant j'en ai deux, mais du coup je fais un sport qui s'appelle la recherche utilitaire. Donc j'ai découvert il y a une quinzaine d'années cette discipline. C'est une discipline française, donc ça consiste à faire de la recherche de personnes faussement égarées. Et on retrouve aussi des biens que la personne a volontairement égarés. Et du coup, ma première chienne a fini, et la seule de sa race à faire cette discipline, elle a fini sa carrière en niveau 3, donc le plus haut niveau de la discipline. Mmh. Et donc, on a notamment fait des parcours en réussite sur la région parisienne et tout. Donc, ça m'a permis aussi de voyager au niveau de la France.
Donc, tu dis recherche donc, d'objets, de...
Et de personnes.
Ah, voilà, ce que je voulais savoir. Donc, en fait, elle est capable de retrouver, je ne sais pas, dans une avalanche, dans un accident.
Non, alors,
je
sais pas comment ça se passe. Recherche utilitaire, c'est vraiment de la recherche de personnes en ville ou en campagne. Y a des règles, notamment de distance. Les niveaux augmentent, plus la difficulté augmente. C'est-à-dire plus le chien se retrouve sur des situations de ville avec beaucoup de distractions. Et il a un temps imparti pour retrouver la personne et les objets qu'il a égarés. Mais il y a certaines personnes qui font ça en loisir et qui à côté font ce qu'on appelle de l'opérationnel, donc ils font de la recherche de personnes. Mmh. Donc notamment des personnes qui sont à la protection civique et aussi des gendarmes ou des pompiers, mais c'est vraiment quelque chose à part. Moi, c'est en loisir, mais mais certains chiens de niveau 3 confirmés peuvent être appelés quand ils sont déclarés en préfecture pour faire de l'opérationnel sur des vraies fugues ou des vraies disparitions.
Donc, c'est quoi le prénom d'ailleurs de ton...
Ma femelle, c'est Yorka. Et j'ai mon mâle qui a commencé sa carrière depuis peu, qui s'appelle Jimmy.
Donc, Yorka est à la retraite, on va dire.
Oui, c'est ça.
Donc, si elle était encore en activité, tu dis qu'ils peuvent être appelés. Elle aurait pu être appelée pour intervenir ?
Alors...
Vu qu'elle a le niveau le plus élevé.
Alors, elle n'a pas validé son niveau 3, donc je ne suis pas déclarée en préfecture.
D'accord.
Mais si j'avais continué sa carrière et qu'elle avait validé son niveau 3, elle aurait pu être appelée. Alors, on a déjà été appelée sur une fugue. Et la personne a heureusement été retrouvée avant qu'on arrive sur place. Mais du coup, nos chiens peuvent être amenés à faire des interventions.
Alors, j'avoue, je ne connaissais pas, oui, spécialement ce type de recherche, mais comment t'as su ton chien était fait pour ça? Parce que t'as bien dû déceler des capacités avant de lui faire ça.
Alors moi, à la base, je me suis formée sur cette discipline avant d'avoir ma chienne, donc j'ai fait pas mal de stages, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans toute la France pour me former. C'est une discipline, en fait, où tous les chiens sont capables. Tous les chiens ont un flair. Donc que ça soit le petit caniche, le chihuahua, le Saint-Bernard, toutes les races sont capables. La seule chose, c'est que nous, pour la discipline, il faut que les chiens y retrouvent des objets. Donc il faut qu'on leur inculque l'amour de l'objet avant la recherche, parce que la recherche, c'est inné chez eux.
D'accord. Mais alors, tu dis que c'est toutes les races, mais c'est vrai que quand on voit à la télé les reportages ou quoi, ben les chiens de recherche, c'est quoi? C'est des chiens costauds comme le tien? C'est des malinois, c'est des bergers allemands? On voit rarement des petits chiens.
Alors, on voit ça parce que souvent, quand il y a des recherches, on voit les opérationnels, donc c'est la gendarmerie. Donc souvent, il y a malinois, il y a Saint-Hubert. C'est des chiens de chasse qu'ils utilisent parce qu'ils ont des grosses capacités olfactives. Mmh. Mais en fait, nous, dans notre discipline, c'est vraiment tout le monde peut y aller. On a organisé la Coupe de France il y a quelques années. Il y avait vraiment un panel très large de races. Ça allait du chien d'eau au malinois, justement, toujours pareil, berger allemand, mais on voit vraiment de tout. Il y a eu du boxer qui a gagné plusieurs fois la Coupe de France. Il y a beaucoup de bosserons qui ont un bon niveau. C'est vraiment...
Bosserons, en plus, je me reviens, c'est les chiens costauds, ça aussi.
Oui, mais c'est vraiment, il y a de tout. Il suffit que le chien, en fait, certains sont un peu plus gênés par leur physique, hein, mais il y a des chiperques aussi. C'est une race de petits chiens noirs qui marchent très bien. Donc, c'est vraiment de tout.
Ah, tu vois, Armand, tu as tes chances. Il est aussi gêné par son physique, donc du coup, tu as tes chances. Tu peux te démerder.
Ouais.
Ça, c'est pour sans blague, d'accord,
qu'ils ouais,
on en reparlera plus tard. Donc, du coup, voilà. Tu parles olfactive, donc c'est les odeurs, c'est ça?
C'est ça.
Donc, c'est-à-dire, en fait, l'objet qu'il doit chercher,
il a une odeur de référence.
Voilà, une odeur de référence que vous le faites sentir avant qu'il le cherche.
C'est ça. Donc, en fait, on a un objet qui appartient à la personne qui s'est cachée, vu que c'est volontaire.
Oui.
On fait, au début de notre parcours, on fait sentir cette odeur à nos chiens. Et derrière, le chien est capable de refaire le tracé ou en tout cas de reprendre la même direction. Et sauf que pour avoir des mentions et augmenter de niveau, il faut qu'il fasse ses objets, donc il faut qu'il reste le plus proche possible du tracé. C'est là où on est différent de tout ce qui est pistage. Le pistage, c'est une discipline où le chien doit être vraiment collé à la piste. Nous, c'est beaucoup plus libre, mais beaucoup plus complet. Le chien n'a pas les mêmes capacités et pas les mêmes façons de travailler.
Mais comment ça va les odeurs? Le chien lui flaire automatiquement, c'est 100% de réussite, non? Ou non,
non.
Ça arrive.
Parce que justement, il y a tout ce qui est distraction. Par exemple, comme on est en extérieur, il peut y avoir le vent, la pluie, il peut y avoir quelqu'un qui est passé sur le parcours, qui a touché les objets, qui les a déplacés. Et puis, il y a aussi, c'est du vivant, en fait. Donc, le chien comme nous, il y a des jours où on est plus ou moins bien. Donc, c'est une discipline qui est assez complexe et du coup, il n'y a pas forcément que des réussites.
Ah oui, voilà, parce que je me disais, oui, il y a une odeur, il a son odeur, il va à l'objet qui a la même odeur. Et donc, du coup, ça marchait. Oui, j'avais pas pensé que oui, l'environnement peut être...
Oui.
Enfin, bon, ça n'a pas empêché Orca de cartonner, parce que tu m'as dit qu'elle est au niveau 3.
Du coup, elle arrive en niveau 3, a pris des belles mentions sur la région parisienne, justement.
Mm-hmm.
Et après, en niveau 3, ça a commencé à être compliqué parce qu'elle a des problèmes de santé. Donc, j'ai fini par la remettre à la retraite il y a un an et demi. Mais bon, c'est pour tout ça pour dire que n'importe quel chien peut et qu'on peut trouver une complicité de cette façon-là aussi avec notre animal.
Donc Yorka, repos.
Oui.
Et donc son compère, enfin, ton deuxième, est-ce que tu me dis que lui, il commence?
C'est ça. Alors en fait, j'ai adopté un chien adulte qui a des problèmes de santé, donc c'est un chien qui est épileptique. Donc à cause de ça, il y a des petits problèmes neuro, donc un peu de retard sur les apprentissages, donc il a mis plus de temps à comprendre. Mais il a commencé sa carrière, il a obtenu son brevet, donc la première étape, et maintenant on va essayer de travailler pour aller en niveau 1.
Il est adulte, tu l'as eu à quel âge?
Je l'ai eu, il avait presque 2 ans.
2 ans, ah d'accord. C'est plus compliqué d'avoir, sans parler qu'il ait des problèmes de santé, c'est pas compliqué d'avoir un chien de 2 ans pour le dresser?
Non, alors en fait c'est ça qui est intéressant avec la recherche utilitaire, qu'il soit chiot ou adulte, on peut travailler très bien avec eux. Et moi, à 2 ans, c'est son handicap qui fait que ça a été plus long, mais c'est pas impossible, il y arrive aussi.
D'accord. Ben écoute, franchement, c'était passionnant, j'ai appris des choses vachement intéressantes. Je sais que je peux cacher un Big Mac à Armand, je te jure qu'il le trouve au bout d'un kilomètre. Il n'y a pas de souci. On se retrouve donc, Lucie, parce qu'on a encore beaucoup de choses à parler, après cette pause musicale, toujours ce passionnement en vôtre. Merci.
À Figeac 97.7.
Et de retour à l'antenne, donc après cette pause musicale, nous sommes toujours avec Lucie Rolls, une passionnée d'animaux et particulièrement de chiens. Donc Lucie, bien, écoute, encore merci de venir nous parler de ta passion. Mmh. Et alors cette fois, on va parler, donc tout à l'heure on a parlé que tes chiens, donc Yorka et Jimmy, font du sport. Enfin, non, Yorka est à la retraite, mais Jimmy fait encore du sport utilitaire.
Tu lui appelles ça recherche utilitaire.
Recherche utilitaire, pardon. Et alors maintenant, je voudrais vraiment parler, voilà, parce qu'on a... Tous les propriétaires d'animaux, enfin moi j'en ai, on en a tous, le bien-être de l'animal. Donc j'imagine que toi qui adores les animaux, enfin, tes chiens et les chiens en général, c'est important pour toi.
C'est ça. Alors dans un premier temps, pour parler de bien-être, il faut apprendre à comprendre nos animaux. Donc tous ceux qui ont des animaux chez eux ne sont pas forcément au courant de tout. J'invite tout le monde à aller voir sur internet des vidéos sur les signaux d'apaisement. En fait, c'est la façon dont les chiens et les chats communiquent avec nous, avec des gestes qu'on peut mal interpréter. Par exemple, un chien qui baille n'est pas forcément un chien fatigué. Un chien qui se lèche les babines n'est pas forcément un chien qui a faim. Chez le chat, un chat qui bat de la queue, c'est pas forcément comme le chien, un chat qui est content. C'est même plutôt l'inverse.
Donc, moi, j'avoue que c'est ce que je pensais.
Je vous invite du coup à aller voir les signaux d'apaisement. Mmh. Il y a pas mal de vidéos sur internet qui sont importantes. Et donc déjà, c'est un petit pas vers la compréhension des animaux qui nous entourent. Et où des fois, on se trompe, ou des fois, on peut dire « Oh ben, il m'a grogné », ou des fois même « Il a pincé ou mordu », alors qu'il n'a pas prévenu. Et en fait, il nous a prévenu plein de fois, et nous, on ne l'a pas compris. Donc déjà, pour le bien-être, ça commence par là. Après, au niveau global, au niveau quotidien, moi, je ne suis pas une personne qui estime que pour qu'un chien soit heureux ou pour qu'un chat soit heureux, il a besoin de sorties et d'hyperstimulation. Au contraire, en fait, il a besoin de sorties, mais il ne faut pas s'engager dans quelque chose ou dans de l'occupation, du surmenage qu'on ne pourra pas tenir au quotidien. Donc, c'est important d'enrichir leur environnement et de leur apporter du bien-être de différentes façons, je vais en parler après, mais il faut pas non plus, à chaque fois qu'on s'engage sur quelque chose, il faut se dire, est-ce que je pourrais le faire tout le temps de la même façon, parce que si on promène pendant plusieurs mois son chien tous les jours, ou si on joue tous les jours une heure avec son chat et du jour au lendemain on le fait plus, ça va être d'autant plus violent pour eux. Donc il vaut mieux voir un peu les exigences à la baisse et varier de temps en temps, leur faire des petits plaisirs, mais se mettre un minimum à tenir.
Oui, parce que bon, on est d'accord que les chats, les chiens, bien sûr, comprennent.
Oui.
Donc en fait, tu dis, voilà, si quelqu'un qui est habitué à balader un chien souvent, pour X raison, pendant les 3 semaines, il ne fait pas, le chien, ça veut dire quoi? Il le prend mal, le chien, il est malheureux?
Il le prend mal, il peut y avoir des troubles du comportement qui apparaissent, notamment de la destruction, des pleurs, des aboiements. Donc tout ça, là, souvent, c'est une expression de mal-être. Donc il vaut mieux voir à la baisse un peu ce qu'on leur apporte, plutôt que de vouloir absolument faire 3 heures de promenade par jour ou je ne sais pas combien de temps. De jeu avec le chat par jour, si on sait qu'au futur on ne pourra pas le tenir.
Bon, moi c'est vrai que j'y connais pas, même si je connais Armand, mais je connais pas grand chose en comportement animal. Mais du coup, oui, j'ai l'impression, voilà, si tu as un gros chien comme les tiens, Yorka et Jimmy, ou un petit chien, on est d'accord, oui, comme tu dis, tu n'as pas besoin de les balader, mais pourtant c'est des chiens sportifs.
Alors, si on a
sortent quand même.
On a besoin de les balader, mais en fait, il ne faut pas être dans une surstimulation. Donc, c'est-à-dire qu'un chien qui balade tous les jours, c'est très bien, mais ce n'est pas parce qu'il balade tous les jours qu'il aura ses besoins, besoins qui seront remplis et sa fatigue qui sera assez basse pour pas qu'il fasse des bêtises à la maison une fois rentré. Donc, en fait, on a tendance à penser que pour fatiguer un animal, il faut qu'on aille vachement sur tout ce qui est physique, promenade, du jeu à fond la caisse et tout, mais en fait c'est pas du tout le cas. Il y a plein d'autres façons de les stimuler pour les apaiser au quotidien, notamment tout ce qui est mental, en fait, leur faire réfléchir, ce qui est important sur chat et chien, c'est de faire des jeux pas forcément physiques, mais des jeux où ils vont devoir réfléchir pour obtenir par exemple de la friandise ou pour obtenir leur jouet, un petit peu d'éducation. Ça va leur permettre de s'apaiser au quotidien. Et chez le chien notamment, il y a beaucoup de choses qui sont sous-estimées. C'est qu'un chien, pour être fatigué intellectuellement, il a besoin aussi de tout ce qui est mastication, léchage et tout ce qui est olfaction. C'est ce que je disais, moi, le sport, je fais avec mes chiens. Mais du coup, on peut aussi lier plusieurs activités. Par exemple, un chien, pour être fatigué et pour s'apaiser, on peut lui faire des jeux de recherche. Par exemple, on peut prendre son jouet, aller le cacher dans la maison. Et lui, le fait de chercher son jouet, ça va le fatiguer beaucoup plus rapidement au final, parce qu'il va devoir réfléchir, il va devoir utiliser son nez, donc on utilise plusieurs choses en même temps. Et ça va permettre de leur apporter des petits plus dans le quotidien, ou par exemple tout ce qui est léchage, en fait, il existe des tapis de léchage, en fait, ça s'appelle. Donc, où, par exemple, on met de la pâté ou du kiri dessus, et le chien, en fait, en léchant, il va se fatiguer plus facilement. Chez le chat, on peut le faire aussi. Les chats sont plus difficiles, mais il y en a certains qui apprécient aussi ces activités. Tout ce qui est mastication, pour éviter qu'ils mastiquent nos chaussures, nos meubles, on peut leur proposer. Bon, il y a des jouets, hein, plus ou moins, il y a certaines marques de jouets qui sont solides, mais il y a aussi des friandises naturelles. Donc, c'est beaucoup tout ce qui est des friandises soit déshydratées, soit pour des niveaux plus compliqués, tout ce qui est cornes et sabots, sous surveillance, bien sûr, mais ça permet de les fatiguer d'une autre façon.
Alors, comment tu es comportementaliste, pardon, des animaux, un chat, pour moi, un chat qui se griffe, c'est un chat qui a besoin de se faire les griffes. Non, c'est
non.
Pas ça.
Alors, je ne suis pas comportementaliste, mais du coup, à force de les voir et de vivre avec eux, j'apprends à les connaître encore tous les jours. Mm-hmm. Mais du coup, en fait, un chat qui griffe, ça peut être plein de choses. Un chat qui va griffer un canapé, ça peut être aussi, je me défoule, je marque mon territoire, je me défoule. Un chien qui détruit les meubles, détruit les chaussures, ce n'est pas forcément un chien qui a une envie de saccager notre maison. C'est un chien ou un chat qui n'a pas ses besoins fondamentaux qui sont remplis, qui sont assez, en tout cas, remplis, et du coup il va chercher des manières de se défouler autres, et forcément c'est pas toujours les bonnes manières à notre vision à nous.
Alors, je suis en train de passer l'expression qu'on dit souvent, ouais, ils s'entendent entre chiens et chats. T'en penses quoi, toi, justement, entre les chiens et les chats? C'est une mauvaise publicité, on va dire, où les chats et les chiens peuvent très bien s'entendre?
Alors, ils peuvent très bien s'entendre, mais c'est une question aussi d'éducation et une question de temps. Il faut bien sûr laisser le temps au temps. Il y a des chiens qui ont beaucoup de prédation, donc c'est plus compliqué. Il y a des chats qui ont toujours vécu sans chien ou en se sentant proie des chiens, donc c'est plus compliqué aussi pour eux. C'est rarement impossible, mais ça demande du temps.
Alors justement, bon, c'est pas un truc chez les chiens, mais tu lui as dit que tu as pris Jimmy, il avait 2 ans et tu avais déjà Yorka. Justement, comment, oui, ça s'est passé la rencontre?
Que ce soit entre chien ou chat, ou entre chien ou entre chat, toutes les rencontres ont besoin de temps. Il ne faut jamais se précipiter. Moi, je me suis fait aider d'éducateurs canins. Surtout que dans la zone, on a quand même beaucoup d'éducateurs canins qui sont pertinents. Donc, je me suis fait aider. J'ai fait plusieurs séances. On a pris le temps. Et même moi encore, quand j'intègre d'autres animaux, que ce soit en promenade ou à la maison, puisque j'ai quand même un chat aussi que j'avais eu quand j'étais ado, avant d'avoir ma première chienne et mon deuxième chien. Toutes ces intégrations, on les fait dans le temps. Et ça permet qu'après, ça soit plus pérenne dans le temps aussi.
Alors, j'espère que ton petit chat, oui, j'ai bien entendu aller de compère, parce que quand il a dû les voir arriver, il a dû...
Oui, alors, Yorka, je l'ai eu chaud. Jimmy, il était déjà habitué au chat, mais il est arrivé, il fait 50 et quelques kilos. Donc, pour le chat, c'est compliqué.
Il a dû faire des yeux.
Mais du coup, j'ai permis à ma Minette, du coup, de prendre le temps de s'habituer aux deux, donc en lui laissant des espaces en hauteur, en laissant les chiens qui ne puissent pas l'atteindre, le temps qu'elle prenne les odeurs, qu'elle vérifie le comportement qu'ils avaient aussi vis-à-vis d'elle. Et petit à petit, maintenant, il n'y a pas de souci, je m'aime dans les mêmes gamelles. Donc,
ils sont potes, quoi.
C'est ça.
Non, c'est pour ça. C'est vrai que l'expression entre chien et chat, elle ne vaut pas pour tout. Mais alors, on parle donc d'un comportement d'animaux. Alors, c'est une question un peu personnelle, comme j'ai expliqué tout à l'heure pendant l'entracte. On parle souvent d'aller, j'ai un gros chien, j'ai un Ramstaff ou quoi que ce soit, et alors, pas tous les gens, je ne suis pas là pour faire polémique, mais pas mal de gens ont une appréhension. Il est gros, c'est un Staff, c'est un Ramstaff, il est méchant. On est d'accord que c'est pas vrai. Moi, je pars du principe, c'est comme tu l'éduques.
Oui, alors moi, j'ai 2 molosses, donc forcément, je veux aussi ces préjugés-là sur mes chiens. C'est aussi un peu pour ça que j'ai fait ce sport-là, la recherche utilitaire avec ma chienne qui est un dog. Et maintenant, mon deuxième, c'est un croisé canet corso, donc il a un look d'un gros noir avec des grosses babines. Voilà. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je fais ce sport-là, parce que je veux un peu montrer aux gens que ça peut être des chiens qui sont sympas, ça peut être des chiens qui sont capables de se tenir dans la vie de tous les jours dans la ville, et qui sont capables de travailler aussi, parce qu'il y a les préjugés sur les molosses aussi, Amstaff y compris, que ce sont des chiens qui sont pas cool et du coup qui savent pas travailler. Il faut savoir qu'il y a des Amstaff qui sont au niveau 3 actuellement aussi en recherche utilitaire, et donc du coup il est important de en fait, il faut que les gens, les propriétaires de chiens molossoïdes ou terriers, type staff, bulles et tout ça, il faut que les gens, en fait, il faut qu'on soit responsable de nos chiens et il faut qu'on apprenne aux autres, en fait, à avoir une bonne image de nos chiens.
C'est ça. Après, bon, c'est pas pour la polémique, mais bon, je sais que j'ai connu des caniches beaucoup plus hargneux que certains hamstaff, quoi. On va conclure donc cette première partie d'émission, parce que bien sûr, il y a une deuxième partie où on parlera spécialement de sans alouse, je ne vais pas dire de bêtises, parce que j'ai bien prononcé, ça va, où tu proposes des petits objets pour les chiens.
C'est
donc ça, on en parlera donc dans la deuxième partie de l'émission. Merci à vous, toujours ce passionnément vôtre. Au revoir.
C'était votre émission Passionnément Vôtre, l'émission 100% passion avec Chris Arnal.